Ce matin, troisième et dernier volet sur la thématique de la compassion. Nous avons compris que la compassion trouve sa source dans la nature de Dieu. Elle trouve son cœur et sa source dans la nature et dans le cœur de Dieu. Dieu n'est jamais insensible à aucune souffrance. Quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature et son intensité, Dieu n'est jamais insensible à la souffrance, car Dieu, par nature, est compatissant. La Bible dit même que ses entrailles sont émues de compassion. Le mot compassion et le mot grec splagna, qui veut dire les entrailles, c'est ce qui est au fond de nous et qui s'émeut, qui est touché. Lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un a de la peine, ce mot est appliqué à Dieu lui-même, car Dieu est un Dieu de compassion, et même plus, c'est le Dieu des compassions. C'est un pluriel qui est utilisé régulièrement dans la Bible pour définir et décrire la compassion de Dieu. « Que tes compassions viennent sur moi. Oh, que tes compassions sont grandes. » Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Et il a compassion de chacune de ses créatures. Et nous avons besoin, nous aussi, de grandir dans la compassion, d'apprendre de lui, car il est dit que dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels nous vivons, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et la compassion n'est rien d'autre qu'une composante de l'amour. Et comme l'amour se refroidit, les cœurs, au lieu de devenir compatissants et d'être compatissants, sont durs, deviennent durs. Deviennent insensibles, implacables, difficiles à toucher. Les cœurs qui étaient autrefois des cœurs sensibles deviennent des cœurs de pierre. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle aussi pour chacun de nous. Dieu change les cœurs de pierre pour en faire un cœur de chair. Il donne une nature nouvelle et par la nouvelle naissance, nous pouvons réapprendre à vivre la compassion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, dira l'apôtre Paul, Éphésiens 4, 32. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez les imitateurs de Dieu. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut imiter Dieu? Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est marqué, devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Et nous en avons parlé. Christ avait compassion et il nous invite à le suivre, à suivre ses traces et à devenir compatissants à notre tour. Humainement, ce n'est pas possible. Mais par notre nature transformée, par la nouvelle naissance et par la conversion à Christ, par la vie nouvelle, la compassion de Christ nous est donnée comme un héritage, comme un cadeau. Comment devenir compatissant? Nous l'avons vu au travers de l'exemple de Jésus. Jésus s'est approché, il a été au contact des gens. Il a touché. C'est au travers du contact avec quelqu'un que vous allez apprendre à avoir compassion de ce quelqu'un. C'est au contact. Si vous restez seul et que vous vous isolez, que vous vous protégez, eh bien, votre compassion sera que théorique. Ce sera des mots, ce seront des bonnes intentions, mais ce ne sera pas de la compassion. Jésus touchait les gens. Il touchait les malades, il touchait même les lépreux, parce que mis en mouvement par cette compassion, il agissait. Lorsque Jésus touchait, il se passait toujours quelque chose. Lorsque Jésus nous touche, non seulement il a compassion, mais sa compassion est active et il se passe quelque chose. Il agit en notre faveur. La compassion, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'un feeling, c'est plus qu'un ressenti intérieur. Parce que si la compassion n'est qu'un feeling, les gens parmi nous qui seront les plus sensibles, naturellement, seraient favorisés. Or, la compassion et le message de la compassion s'adressent à chacun, même à celui qui, naturellement, n'a peut-être pas rapidement des sentiments de compassion pour quelqu'un. Soyez tous, devenez tous les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ, soyez remplis de compassion. La compassion, donc, c'est plus que du feeling et du ressenti, c'est prendre part à la souffrance de l'autre. C'est s'investir, c'est partager. Porter le fardeau avec l'autre, pleurer avec ceux qui pleurent. Regardez ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, s'il lui ferme ses entrailles. » C'est étonnant, c'est l'anti-splagna, l'anti-entraille, fermer ses entrailles. Compassion veut dire ouvrir ses entrailles, avoir des entrailles. Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc la compassion et l'amour, c'est deux composantes qui sont les mêmes en fait. La compassion, c'est plus, comme je l'ai dit, que ressentir. C'est plus que écouter, c'est plus que donner des bons conseils. C'est plus que aider, c'est être concerné, se laisser toucher, se rendre vulnérable. Que faisons-nous naturellement? Nous nous protégeons. Nous ne voulons pas être touchés trop près. Nous nous sommes déjà parfois ouverts à quelque chose, à des situations, et le résultat, c'est qu'on a profité de nous. C'est que ça nous a tellement pris du temps et de l'énergie et des moyens, de l'argent, que sais-je, qu'on veut maintenant se protéger et limiter tout cela. Voyez-vous, la foi chrétienne, l'amour de Dieu, c'est un risque, c'est courir un risque. Si vous voulez vous ouvrir à l'amour de Dieu, oui, on a tous besoin de l'amour, on veut avoir ça, mais c'est un risque. Parce que si vous partagez l'amour de Dieu, ça va vous coûter quelque chose. Cela nous engage, cela nous demande, cela demande le don de notre vie. Rien de moins. La compassion englobe la solidarité, l'amour, l'aide et la communion fraternelle. Je l'ai dit, la compassion n'évacue pas la justice. Elle n'évacue pas le discernement ni la sagesse. Elle n'est pas opposée, c'est pas être simplement naïf. La compassion, c'est les sentiments de Dieu qui passent au travers de moi face à une situation donnée. La compassion, définitivement, reste un choix. Je choisis de grandir dans la compassion. Je choisis d'ouvrir ma vie pour devenir compatissant. Je me laisse toucher. Maintenant, comment grandir dans cette compassion? Nous l'avons dit, il faut un contact. Il faut cesser de rester isolé. Il faut un contact avec notre prochain. Deuxièmement, la Bible dit aussi qu'il faut se revêtir d'entrailles de compassion. Colossiens 3:12, nous l'avons aussi déjà cité précédemment. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. J'ai besoin de prendre cette nature nouvelle. Revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de ses entrailles de compassion. J'ai besoin d'être revêtu de quelque chose que je ne possède pas naturellement. Et puis, il y a quelque chose qui nous fait grandir d'un coup dans la compassion. Et vous l'avez certainement tous expérimenté. C'est lorsque nous-mêmes, nous avons part à quoi? À la souffrance. Nul ne peut comprendre quelqu'un qui souffre que quelqu'un qui a souffert lui-même. Mais il y a souffrance et souffrance. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi aussi, je connais ce que tu connais. J'ai déjà passé par là. Ils se mettent au-dessus des autres parce qu'ils connaissent tout et savent tout. Mais la compassion se met en dessous des gens simplement parce qu'il n'y a pas besoin de parler, mais juste de partager et d'accueillir la souffrance de l'autre, d'être à son écoute. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 2 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 3 et 4, c'est un verset que l'on donne volontiers le jour des obsèques ou des deuils, etc. Où il nous est dit que le Dieu de compassion va d'abord nous consoler dans nos souffrances. Et au travers de cette expérience, nous pouvons et nous serons capables de consoler les autres. Mais d'abord, il faut que tu aies reçu la compassion de Dieu et la consolation. Et ensuite, tu peux la partager avec quelqu'un. Vous pourrez lire ce verset qui veut dire cela, versets 3 et 4. Quand on souffre soi-même, on est fragilisé, n'est-ce pas? On est faible, on a mal, et alors on comprend mieux les autres. Je crois d'avoir déjà raconté à plusieurs reprises cet épisode qui est gravé dans notre cœur comme une expérience. Je parle de notre cœur en tant que famille. Mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je voudrais encore une fois la raconter, sans vouloir ramener les vieilles histoires continuellement, parce qu'il y a des expériences marquantes qui sont vraiment la preuve que la compassion a du positif, que la souffrance peut amener des choses, peut finalement induire des choses très positives. Lorsque nous sommes arrivés dans notre premier poste pastoral à Vevey, le 3 octobre 1987, nous sommes arrivés avec notre déménagement et nous avons été hébergés dans un appartement provisoire avec nos valises et notre petit déménagement. Et la première nuit, nous étions arrivés un certain vendredi soir et le samedi matin, et durant la nuit déjà, notre aîné qui avait six mois à peu près, a commencé à pleurer, à crier, à gémir, à trembler, et nous étions un peu désarçonnés en tant que jeunes parents. Et la première chose que j'ai fait, j'ai téléphoné au pasteur qui était encore là à l'époque, à qui je devais succéder. Et le pasteur arrive, il était 7 heures du matin, et effectivement, il était évident pour nous tous que l'enfant était mal. On a prié, et il a dit, je vais quand même téléphoner à mon pédiatre de famille pour qu'il puisse vous recevoir tout de suite. À 8h30, nous étions déjà chez ce pédiatre, donc nous étions dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, nous ne connaissions personne, nous étions complètement dépendants de tout ce qu'on nous proposait de faire. Donc nous arrivons chez le pédiatre qui regarde l'enfant et au bout de 30 secondes, il dit tout de suite, il faut la mettre à l'hôpital parce que je crains quelque chose de grave. Donc nous avons d'abord accusé ce choc, l'enfant est conduit à l'hôpital et là, il va rester pendant 4 jours et il ne trouve pas ce qu'elle a. Il ne trouve pas ce qu'elle a. Elle avait 6 mois. Elle ne faisait que pleurer, gémir et elle perdait du poids. Et un jour, tous les jours, nous étions à déambuler aux alentours de l'hôpital, dans les corridors. Nous étions auprès d'elle quand nous pouvions être là. Et à un moment donné, il lui faisait une ponction lombaire, ce qui est déjà une petite intervention douloureuse pour un bébé. Et je me souviens que j'étais assis dans les escaliers qui descendaient du 3e étage où elle était. J'entendais notre enfant hurler au bout du corridor dans la petite salle. Et j'étais assis et j'avais ma tête entre mes mains. Et j'étais bien sûr découragé, je ne sais pas. Dans quel état, j'étais pas bien. Et voilà qu'une personne passe. Elle descendait du 4e étage et elle descendait les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Elle prend les escaliers et elle passe à côté de moi et elle continue à descendre et elle s'arrête. Elle se retourne et elle me regarde, moi qui avais ma tête entre mes mains, et elle dit, mais vous n'êtes pas le nouveau pasteur de l'église de Réveil. Nous étions là depuis 4 jours ou 5 jours. Et je lève ma tête, j'étais un peu ailleurs, je regarde cette personne que je ne connaissais pas. Et frères et sœurs, ce que je voulais dire, c'est que cette dame qui visitait son mari, qui était hospitalisé au 4e étage, en descendant, en voyant ce malheureux que j'étais, en me voyant, elle a eu une compassion pour moi et pour toute ma famille. Une compassion. Et pour vous dire que Dieu change le mal en bien, c'est que ce n'était pas juste une compassion et un hasard fortuit qu'on s'est croisé comme ça dans les corridors d'un hôpital alors que nous étions à peine arrivés. Mais cette personne-là est devenue la grand-maman de remplacement de tous nos enfants, nos 3 filles, jusqu'à sa mort, qui a eu lieu en 2010. Et ce cadeau est pour moi inoubliable, bien sûr, parce que ça a démarré par la compassion. Elle avait une situation de souffrance familiale et moi j'avais une situation de souffrance aiguë. Ces deux souffrances se sont touchées et la compassion a généré quelque chose qui a été ce contact. Elle aurait pu continuer mais elle s'est arrêtée. Quelque chose en elle a marqué un stop. Elle s'est retournée, cette compassion est venue dans son cœur et s'est poursuivie par une aide, par de l'amour, par des services rendus, par de l'amitié, de l'affection, qui a duré si longtemps, entre 1987 et 2010. Ça, c'est la compassion active. Combien je bénis le Seigneur pour cette expérience et pour le résultat de tout cela. et je voulais juste encore une fois vous le partager, certains l'ont déjà entendu. La souffrance fait naître, est capable de faire naître de belles choses. La souffrance n'est pas là pour détruire, elle fait naître, Dieu change le mal en bien. Lorsque la souffrance se tourne vers Dieu, eh bien Dieu charge la souffrance de compassion, d'amour et d'événements qui sont juste inimaginables, extraordinaires. Avez-vous remarqué que les négros spirituels, le gospel qui prend sa base sur les négros spirituels, comment sont nés ces chants? Où sont nés ces chants? Ce gospel qui est juste magique quand il est chanté par les Noirs américains, comment est-ce qu'ils sont nés ces chants? Dans les chants de coteaux des esclaves, nous le savons. C'est à partir d'une souffrance et d'une vie sans espérance qui se tourne vers Dieu, vers l'éternité, vers l'espérance éternelle en Christ. C'est là que sont nées cette musique qui a béni des millions de gens aujourd'hui et qui a permis que des gens soient touchés parce que c'est né dans la souffrance. De voir et d'entendre ces témoignages de ces personnes, de ces esclaves qui avaient compassion de leur maître, qui priaient pour eux et qui chantaient malgré tout dans les champs de coton. Qui peut me comprendre quand je souffre? Je voudrais faire une petite remarque ici, sans offenser qui que ce soit qui vient de milieu catholique. Mais une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens prient la Vierge Marie, vous savez la raison? C'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu comme leur Père et qui ne sont pas en contact véritablement dans cette intimité avec Dieu pensent que Marie est capable de comprendre ce que Jésus ne comprend pas. Ils pensent que Marie, c'est une maman qui peut tout comprendre, donc on peut prier Marie. Alors que Dieu le Père, Jésus est le vrai médiateur et le seul médiateur, n'a pas besoin de prier la Vierge Marie. Jésus te comprend, Dieu le Père te comprend parfaitement. C'est lui qui t'a fait, il te comprend, il a compassion de chacun de ses enfants. Il a compassion. Je voudrais maintenant me tourner vers trois paraboles. Et ensuite, nous allons lire un texte biblique qui va connecter tout ça ensemble pour terminer. Il y a trois paraboles qui parlent de compassion. Ces paraboles ont toutes été racontées par Jésus lui-même. Vous les trouvez dans Luc 10, dans Luc 15 et dans Matthieu 18. Je ne vais pas vous les lire parce que ce serait trop long, mais juste prenez acte pour vous qui connaissez bien la Bible de ces trois récits extraordinaires. Luc 10 nous parle de la parabole du bon samaritain. Cette parabole nous raconte qu'un homme était blessé au bord de la route, que des gens passaient et se détournaient, changeaient de trottoir, et le laissaient là, à demi-mort. Et puis il nous est dit qu'un samaritain s'est arrêté près de lui, et Jésus utilise le mot justement des entrailles, touché dans ses entrailles, ému de compassion, il voit ce malheureux, le relève, lui donne à boire, le remet sur sa monture et l'amène dans une hôtellerie pour être soigné. Cet homme blessé reçoit la compassion. Et Jésus va dire, c'est ça, aimer son prochain. Et Jésus va dire à la personne qui entendra cette parabole, toi, va et fais de même. Dans Luc 15, nous voyons cette parabole du fils prodigue extrêmement connue par tous, où ce fils lui-même va se couper du contact avec son père, va finalement lui manquer d'un tel respect énorme, offensant et injurieux à l'époque, de demander carrément son héritage au total et de partir faire la grande vie et vivre hors de la présence du Père, faire ce qu'il voulait. Et à un moment donné, arrivé au bout de lui-même, ayant tout perdu, ce fils va se souvenir, « Ah, si je pouvais encore retrouver mon papa, si je pouvais encore rentrer à la maison. » Je me contenterai de la plus petite place. Et lorsque le fils revient, le père, nous dit le texte, ému dans les entrailles par la compassion du papa, voyant son fils revenir, court vers lui pour l'embrasser et lui pardonner séance tenante. Et il va dire, mon fils qui était mort, le voici revenu à la vie, il était perdu et le voici retrouvé. Alléluia. Et la troisième parabole parle aussi de compassion dans les mêmes termes, toujours dans les mêmes entrailles, dans les mêmes termes, splagna, les entrailles de compassion. Dans Matthieu 18, on voit l'histoire d'un homme lourdement endetté. Lourdement endetté. La Bible dit qu'il doit 10 000 talents à son patron. Et si on traduit ça dans les termes et dans les dans les salaires de l'époque, il avait besoin de 10 vies pour rembourser. Il devait rembourser toute sa vie fois 10. Et la Bible dit dans ce texte, donc les gens de l'époque souriaient bien sûr quand ils entendaient Jésus parler de cette énorme dette de 10 000 talents que personne ne peut rembourser. Et au lieu que cet homme dise « Désolé, mais je peux pas te rembourser, c'est beaucoup trop, personne ne peut rembourser ça », il va carrément dire « Patiente, je vais te rembourser ». Et les auditeurs de cette parabole vont sourire bien sûr parce que c'est juste une blague. C'est juste une farce, c'est pas possible. Et il est dit dans ce texte, au lieu que cet homme dise, écoute, maintenant passons aux choses sérieuses, tu vas commencer à être en prison, il est dit que, ému de compassion, cet homme va lui pardonner et lui enlever toute la dette de 10 000 talents, impossible à rembourser. Un homme blessé est accueilli avec compassion. Un fils qui revient est accueilli avec compassion. Un homme endetté est pardonné avec cette grande compassion du maître. Ça, écoutez bien ceci, c'est la leçon que je retire de cela, c'est que la loi de l'amour et de la compassion surpasse la loi de la justice. La loi de la justice, elle n'est pas gommée, elle n'est pas effacée, mais la loi de l'amour et de la compassion surpasse toutes ces lois. Le Dieu juste, qui devrait nous condamner, qui devrait nous fermer le ciel, cette loi de l'amour va surpasser sa propre justice, et pour ne pas trahir sa justice, il a envoyé son fils à la croix pour que justice soit faite. Mais c'est lui qui paye, et moi je suis libre, et je suis accueilli dans ma blessure, je suis désendetté, et je suis accueilli après ma perte. Frères et sœurs, la loi de l'amour est plus grande. Et maintenant j'arrive à ce texte que j'aimerais que vous reteniez. Nous allons tourner dans le livre de Philémon. Philémon. Saviez-vous que ce livre existe? C'est le plus court, vous ne pouvez pas trouver plus court que ça. 25 versets, une seule page, une lettre écrite de la main même de l'apôtre Paul, alors que les autres lettres étaient dictées par lui. Nous retrouvons cette compassion dans cette lettre. Pourquoi? Parce que Philémon a été écrit en prison. Nous avons dit tout à l'heure, lorsque l'on souffre soi-même, on est ouvert à la compassion. On participe plus facilement à la compassion des autres. Paul est en prison et dans ses lettres de la prison, il y a cette compassion et cet amour qui ressort. Lisez Philippiens, lisez Colossiens, vous verrez, vous trouvez ça facilement. Cette compassion, cet amour ressort parce que Paul lui-même se trouve en prison dans la souffrance. Lisons les versets 8 et suivants. Je vais vous raconter le contexte dans quelques instants. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui te convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Intéressant de lire, lui, mes propres entrailles. Splagna, on trouve ce même mot. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris, de ma propre main, je te rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Amen. Jusque-là. Écoutez cette histoire extraordinaire. L'histoire qui se passe dans la ville de Colosse, dans une maison de maître, grande maison. Le maître de la maison s'appelle Philémon. Et il a, comme il était usage dans l'Empire romain de l'époque, des esclaves. Il semblerait qu'environ 30% de la population de Rome était composée d'esclaves. Un esclave n'avait ni droit, ni situation, ni identité. C'était une marchandise, c'était une force de travail, sans avoir aucun droit. Donc Philémon, bien que chrétien, avait aussi des esclaves. dont Onésime. Onésime qui veut dire utile. Il est esclave de la maison de Philémon et Philémon, un chrétien engagé, il a dans sa maison, qui est assez spacieuse, une église de maison. Les gens se retrouvent chez lui. Donc il voit des gens arriver, des gens repartir, il y a du mouvement, ils chantent, ils lisent la parole, ils écoutent les lettres que Paul envoie et Onésime, l'esclave, est là, il écoute, il prend part à tout cela par la force des choses, tout en servant les gens qui rentrent et qui sortent. Il entend l'évangile dans la maison de son maître, mais dans son cœur, dans sa tête, il est ailleurs. Il rêve de liberté. Ah, si je n'étais pas un esclave, si je pouvais voyager comme je voulais, si je pouvais sortir de cette maison, ce serait quand même bien. Et là, il rêve et il écoute d'une oreille cet évangile qui est annoncé et la vie de son maître qui lui parle aussi. Et de l'autre, il est ailleurs. Il est partagé. Mais un jour, la partie liberté en lui prend le dessus et il va, un jour, ni vu ni connu, puiser dans la caisse de Philémon. Il va prendre des objets, il va prendre l'argent et il s'en va. Il prend la clé des champs et le voilà parti. Il court, il part. Où est-ce qu'il faut aller pour ne pas être retrouvé? Parce qu'on sait bien qu'un esclave retrouvé, ça peut mal se passer. Jusque même, l'esclave pouvait même être tué simplement. Il n'avait pas de droit et c'était autorisé. Pour disparaître, le mieux était de s'enfuir dans une grande ville, et la grande ville c'était Rome. Donc il va descendre à Rome et il va disparaître au milieu de la foule, ni vu ni connu. Mais là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'il ait pris la main dans le sac. Quelque part, est-ce qu'il avait tout dépensé? Est-ce qu'il a continué à voler pour survivre? Est-ce qu'il a été repéré? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il se retrouve en prison. Mais quelle coïncidence! Il se retrouve dans la même chambre, dans la même cellule que Paul. C'est incroyable! Il est emprisonné là où Paul est emprisonné. Rome, c'est pourtant la capitale, il y a du monde, il y a des prisons multiples, mais il se retrouve tout à coup à côté de Paul. Et Paul, dans son âme d'apôtre et d'évangéliste, va l'évangéliser, va lui rappeler ce qu'il connaissait déjà, il lui a rappelé l'évangile, et là, il va se convertir à Jésus. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Maintenant, il y a l'étape suivante, c'est comment rentrer à la maison maintenant? Que faut-il faire? Comment faire? Mais Onésime réalise bien qu'il n'a aucun droit, aucun pouvoir, et que c'est le pire qui va l'attendre. La pire sanction, le jugement, voire même la mort. Et c'est là que Paul, ému de compassion, pour cet homme qui, quelque part, est un blessé de la vie, est un fils prodigue qui revient, est un homme endetté parce qu'il avait volé son maître, c'est marqué. S'il te doit quelque chose, tu le mettras sur mon compte, donc il avait quand même volé quelque chose. Les trois paraboles de tout à l'heure se retrouvent dans la vie d'Onésime. Luc 10, Luc 15 et Matthieu 18. Les trois paraboles. Cette même compassion qu'animait le père du fils prodigue, qu'animait le maître qui avait son serviteur qui était endetté et qui animait le bon samaritain, ce même sentiment anime l'apôtre Paul, enchaîné ou en prison avec une minuscule liberté, nous ne savons pas. Et lui va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est ça que vous devez retenir ce matin. Il va écrire une lettre de sa propre main. Regardez avec moi dans Colossiens au chapitre 4 et le verset 7. Colossiens 4, 7. « En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Paul, depuis sa prison, était entouré de quelques disciples, dont un certain Tychique. Tychique est aussi de Colosse. Paul n'a pas fondé l'église de Colosse, mais il a des amis qui sont là-bas. Donc il va envoyer Tychique avec une lettre précieuse dans sa poche, qui est l'épître aux Colossiens. Il va emmener cette lettre qu'il a écrite en prison pour l'emmener chez lui. Et Tychique, en rentrant à Colosse, va prendre sous sa bonne garde Onésime, l'esclave échappé, qui avait pris la clé des champs et qui va la rendre. Et il va accompagner ce jeune tremblant qui ne sait pas ce qui va se passer. Alors que Tychique a dans sa poche la lettre aux Colossiens, Onésime a dans sa poche la lettre à Philémon. Une lettre écrite. Et il ne peut pas la perdre. Parce que lorsqu'il arrivera, imaginez-vous la scène, lorsqu'il arrivera devant Philémon, Tychique va livrer son colis à l'église de Colosse, qui est peut-être même la maison de Philémon, et il va mettre jusqu'au pied de la porte Onésime, et puis il va se retirer, Onésime sera là devant son maître. Que va-t-il faire? Que va-t-il dire? Il ne va rien dire, il ne va rien faire. Si Philémon dit, « Ah, te voilà, tu ramènes la clé des champs, je vois. Tu reviens, j'espère que tu vas me restituer tout ce que tu as volé. Tu sais ce qui t'attend? Tu sais le jugement qui va t'attendre? » Il va entendre toutes sortes de choses, nous ne savons pas s'il va être bienveillant ou s'il va faire acte de justice. Et Onésime ne pourra rien répondre. Par contre, il va sortir la lettre de l'apôtre Paul. Et la lettre de l'apôtre Paul, c'est la lettre d'un avocat. C'est la lettre d'un médiateur, c'est la lettre d'un ami. Paul est ami avec Philémon et il va plaider la cause d'Onésime. Et il va, par son autorité apostolique, sa compassion et son amour, en décrivant si bien ces choses comme en disant « Mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, mes entrailles, cet enfant bien-aimé, une partie de moi-même », il va remplir cette lettre de son amour, de sa compassion, pour toucher le cœur de Philémon, pour qu'il fasse grâce à son tour. Frères et sœurs, la compassion de Dieu à notre égard, à mon égard, à votre égard, la compassion de Dieu fermera les accusations de l'ennemi. Alléluia. Les accusations justifiées par l'ennemi et par le péché. Je n'ai rien à répliquer, mais je vais sortir la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La lettre de Paul à Philémon, c'est ça son texte. C'est ça son écrit, c'est son plaidoyer. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est la lettre, la parole de Dieu qui témoignera en sa faveur. Alléluia. Et de la même manière, la parole de Dieu témoigne aujourd'hui que tu es libre, que tu es libéré, que tu es racheté, que tu es pardonné, que le sang de Jésus a coulé. Tout a été fait, la parole de Dieu témoigne de tout cela. Encore faut-il l'attendre à notre accusateur. Onésime, de cette manière, va être, nous l'espérons, gracié. Et l'apôtre Paul dit, Philémon, tu sais, Onésime, tu le retrouves plus de la même manière comme tu l'as quitté. Il était esclave, maintenant c'est un frère. Il a changé de statut. Il n'était rien, maintenant il est quelqu'un. Un frère bien-aimé. Il s'appelle utile, mais il était inutile, mais tu le retrouves comme un utile, comme un serviteur. Tu le retrouves comme un homme changé, transformé. Je m'en porte garant, Philémon. Moi, je suis à Rome, j'ai vu comme sa vie a changé. Je plaide pour lui. Le Saint-Esprit plaide pour ta cause aujourd'hui. Mais il faut que tu aies dans ta poche, dans ton cœur, la parole de Dieu. Et cette compassion de Dieu, et c'est le mot de la fin, mes amis, cette compassion de Dieu que nous avons vue dans la vie de Jésus, dans les paraboles, et dans ce texte extraordinaire de Philémon qui montre combien Paul pouvait être compatissant. Parce que Paul va dire, non seulement j'ai souffert pour l'évangile, mais j'ai fait souffrir avant d'être chrétien. Il va dire, moi je suis le moindre des apôtres. Il va dire ailleurs, je suis le moindre de tous les saints. Moi qui ai persécuté l'Église, il va dire, Dieu est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai reçu la compassion de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être compatissant si vous n'avez pas d'abord reçu la compassion. C'est pourquoi dans la parabole de Matthieu 18, l'homme qui a été désendetté de 10 000 talents n'a pas compris la compassion de son maître. C'est pourquoi lorsque quelqu'un d'autre lui demande « Fais-moi grâce, je te dois 100 deniers », il va dire « Non, je te mets en prison, tu vas payer ». Cette compassion qui n'avait pas rempli son cœur, il ne pouvait rien donner du tout. Mes amis, si la compassion de Dieu vous remplit, vous pouvez être compatissant. Mais si vous êtes fermé à la compassion de Dieu, vous n'avez rien à donner du tout. Rien. La compassion doit couler. C'est le mot de la fin de ces trois messages. Est-ce que la compassion de Dieu, est-ce que Dieu peut dire, est-ce que je peux faire passer ma compassion au travers de toi vers les autres ? Est-ce que tu veux la saisir pour ta propre vie, toi qui es endetté, toi qui es blessé, toi qui es rejeté, toi qui reviens à la maison comme un pauvre qui a tout perdu, qui a gâché sa vie ? Je te fais grâce pour tout, mais à ton tour, fais grâce aux autres. La loi de l'amour est au-dessus de la loi de la justice. Si justice doit être faite, la grâce doit d'abord plaider. Dans l'Apocalypse, vous verrez que le Dieu de justice va agir. Chaque étape va venir, les jugements vont arriver, mais avant les jugements, le temps de la grâce, le temps de l'évangile, le temps de l'amour de Dieu, le temps de la compassion. Le temps de jugement viendra après. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît ? La compassion voit le mal, mais encourage la repentance. La compassion choisit d'aimer avant de régler les cas, de juger et de faire justice soi-même. La compassion, c'est l'amour qui précède la justice. L'amour et la compassion font craquer les cœurs les plus durs. Je l'ai dit au début, il te faut naître de nouveau pour être capable d'avoir véritablement compassion. Ce n'est pas de la sensiblerie. La compassion vient d'un cœur qui est né de nouveau. Si tu n'as pas compassion, si ça ne marche pas dans ta vie, si tu n'as jamais compassion, quelque chose ne va pas dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle nature. Tu ne l'as pas encore reçue. Il faut que tu reçoives cette nouvelle nature d'abord. Cette nouvelle nature, revêtez-vous de Christ. Cette nouvelle nature nous donnera l'occasion et nous permettra d'être compatissants.